Colline Serreau, bonjour et merci de nous accorder cette interview sur Radiola. Vous êtes née à Paris et avez suivi des études de lettres, puis vous êtes entrée au Conservatoire de musique. Vous avez également suivi des cours de trapèze dans une école de cirque avant de rejoindre le milieu du théâtre. Au cinéma, vous avez réalisé entre autres « Trois hommes et un couffin », »,« La crise », »,« La belle verte ». Et en 2010 sort le documentaire « Solution locale pour un désordre global ». En somme, vous apparaissez comme une artiste militante engagée sur la scène nationale. Quels sont les combats qui vous tiennent le plus à cœur aujourd'hui ?
Je suis engagée sur toutes sortes de fronts. Hein, et puis, quand je ne suis pas seulement engagée. Enfin, je veux dire, je suis une artiste avant tout. Mon métier, c'est cinéaste, metteur en scène, musicienne, artiste, écrivain. Donc, mon métier, ce n'est pas de militer. Hein, c'est clair, c'est ça mon métier. Et puis, à travers ce que je fais, je milite d'une manière ou d'une autre.
Comment vous aviez réussi à mêler l'art au militantisme ?
On peut aussi affirmer la proposition inverse. Comment le militantisme a nourri l'art ? L'art, il est intéressant quand il est le reflet d'une époque. Et quand on réfléchit à une époque, on voit ses problèmes. Et comme artiste, on exprime sa vision des problèmes par l'art, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer.
Donc pour vous, des thèmes comme écologie, féminisme ou tolérance interraciale, c'est des thèmes qui sont liés les uns aux autres ?
Oui, et qui font partie d'une démarche artistique, parce qu'une démarche artistique, elle est intensément liée à une époque, à comment on s'y projette et comment on la juge et comment on s'y... Voilà comment on la reflète. Un artiste est aussi un miroir de son époque.
Est-ce que, selon vous, on peut être féministe et raciste ou écolo et macho ? C'est pour savoir si justement tous ces thèmes sont interdépendants.
La priorité, pour moi, la seule grande priorité, c'est la lutte contre le patriarcat. Et tous les écologistes qui ne luttent pas contre le patriarcat sont des guignols. Donc il y a beaucoup de guignols dans les écologistes.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire que la femme, elle est actrice, motrice d'un changement de société ?
C'est pas la femme, c'est le système patriarcal. Il y a énormément de femmes qui sont machos. Hein. C'est pas ça la question. La question, c'est le système patriarcal. Le système patriarcal est un système dans lequel le corps d'un humain appartient à un autre humain. Il a pouvoir sur le corps, le père a pouvoir sur le corps de sa femme et de ses enfants. C'est ça le système patriarcal. Il a pouvoir sur son devenir, son avenir. Il a pouvoir sur la violence, sur son économie. Il a tout pouvoir. Même si c'est caché dans certaines sociétés où c'est moins flagrant d'autres, quoique c'est toujours assez flagrant. Par conséquent, c'est la première grande mutation qui est en train de se faire. D'ailleurs, ça se fait avec ou sans les militants, hein, ces choses-là. Pas les militants qui font les choses, c'est les militants qui sont témoins de certaines avancées de la société et qui en témoignent. Mais la société, elle avance sans les artistes, hein, elle n'a pas besoin d'eux. Hein. Elle avance comme d'une manière très organique. Et le patriarcat, ça fait longtemps que ça a commencé, ça chute. Mais le patriarcat, de plus en plus, il est un frein à toute évolution. Et c'est en cela que le patriarcat va mourir de sa belle mort. Et en tout cas, est dans la violence, parce que quand une classe dominante est obligée par l'histoire, et quand l'histoire avance et que la classe dominante en question est obligée de lâcher son pouvoir, en général, elle ne le fait pas avec sympathie. Elle le fait avec violence. Donc les derniers feux du patriarcat seront violents, comme ils le sont d'ailleurs là. Et l'écologie et la manière de traiter la Terre découlent du patriarcat, et pas l'inverse. La manière de traiter la Terre, la manière de s'approprier les choses, de s'approprier la terre et le corps, la terre c'est le symbole de la femme, et le corps des animaux et de se croire supérieur au reste de la création, c'est une démarche patriarcale et qui est totalement maintenant historiquement obsolète. C'est la première grande bagarre, c'est celle-ci.
Colline Serrault, vous faites partie d'une chorale, la chorale du Delta que vous dirigez. Elle est née en 2003 suite à un stage que vous donniez au Théâtre du Rond-Point à Paris. Pouvez-vous revenir sur l'origine de cette chorale, ce qu'il a vu naître, les personnes qui la composent, et peut-être aussi le choix des lieux de représentation?
Oui, c'est une chorale qui est née comme ça avec des comédiens, qui a continué avec des musiciens et qui vit maintenant depuis plus de 10 ans. Hein. Mm-hmm. Et puis elle s'est solidifiée autour des tournées qu'on fait dans la Drôme, parce qu'on a trouvé là un public, une région, un ancrage régional qui est la mienne de région, mm-hmm. et qui fait qu'on a une action culturelle demain, je dirais. Et qui est la philosophie de ça, c'est l'excellence pour tous. C'est-à-dire ne pas jouer l'élitisme, mais jouer l'excellence pour tous. Et aussi une action populaire, une action culturelle populaire. Toutes les populations en été se retrouvent éventuellement à la chorale, dans les concerts, aussi bien des amateurs de musique depuis toujours que des néophytes, que des Belges, des bobos, des paysans, des gens de la région. C'est leur chorale, c'est leur église, c'est leur village. On va chez eux, c'est eux qui font. Nous, on apporte tout, on apporte le concert, on apporte les affiches, les tracts, toute la préparation pendant une année entière. Et eux, ils apportent le réseau qu'ils ont localement, parce qu'ils les ont et que nous, on les a moins.
Quel est le répertoire musical que vous proposez?
La chorale du Delta, c'est de la musique classique. Bach, Handel, Schubert, Mozart, Monteverdi, etc. Quelques chants italiens populaires, je ne sais pas, mais c'est vraiment un répertoire très classique.
Continuer un peu autour du militantisme, j'ai l'impression que un de vos moyens favoris pour sensibiliser les gens, c'est l'humour. Vous l'utilisez beaucoup dans la chorale et dans vos films. Vous mettez en scène le comique de répétition. Certaines scènes de la vie quotidienne deviennent absurdes à travers votre regard, ce qui nous aide à prendre un certain recul en fait face à notre société. En quoi l'humour, pour vous, est un moyen efficace de sensibilisation par rapport à la culpabilisation, par exemple, ou aux scénarii catastrophes?
De toute façon, l'humour, on ne décide pas d'avoir de l'humour. On en a ou on n'en a pas. Hein. Vous savez, on est avec ça ou pas. L'humour, c'est comme les yeux bleus. Hein. Vous avez les yeux bleus ou marrons, c'est vous naissez avec ça. Vous voyez le monde drôle ou pas. Et on ne décide pas, tiens, je vais faire un truc drôle. On voit le monde d'une certaine manière et c'est une arme absolument fatale. Hein. C'est une arme meurtrière, l'humour. Hein. Et c'est la plus grande arme qui existe. C'est le plus difficile aussi. C'est pas facile. Hein. Et quand vous voyez le monde avec des yeux humoristiques, vous ne pouvez pas vous empêcher de le montrer, mais c'est pas un truc qu'on décide. Hein.
Colline Serrault, votre tournée a lieu chaque année dans des petits villages drômois et dans quelques départements limitrophes. Vous connaissez donc bien le territoire. Vous disiez tout à l'heure y appartenir. Quelle relation entretenez-vous avec ce territoire et ses habitants?
Ah ben c'est chez moi, c'est mon. J'aime l'architecture, j'aime les gens. Je trouve que la nature est extraordinaire. Je trouve que ça c'est une chose que je rencontre partout en France aussi, c'est qu'il y a un total abandon des territoires par la classe politique et c'est dramatique quoi. Parce que j'ai essayé de sensibiliser, souvent en parlant à la télévision, de ce qui se passe, mettons par exemple dans ce village de Bouvières. Bouvières, c'est un village, le maire est formidable, il a essayé par tous les moyens de retenir une école à Bouvières, il a construit des HLM, il s'est endetté, tout d'un coup il reçoit une circulaire d'une ministre de l'éducation, que je ne nommerai pas parce que c'est vraiment une imbécile, qui lui dit, cette année, vous êtes fermé, votre école est fermée, donc Bouvières est mort, quoi. Et, c'est on abandonne la poste, on abandonne les trucs. En fait, on se tient mondi dans ça. Les riches sont toujours plus riches, et les provinciaux sont toujours plus abandonnés, quoi. Ça, c'est vraiment une plaie. C'est ça que je, que je, je vois aussi dans les territoires, et je ne le vois pas qu'à la tête dans la Drôme. Hein. La Drôme, elle a encore une chance, c'est qu'elle est extrêmement... Elle a un énorme potentiel touristique de qualité, mais il n'y a pas que le tourisme pour faire vivre les gens. Hein. Il faut aussi qu'ils aient une vie économique, une vie sociale.
Avec toutes vos activités, vous devez avoir un emploi du temps chargé. Quel est votre rapport au temps et aux espaces en comparaison, la ville et la campagne? Comment vous les vivez, ces espaces? Est-ce que vous allez vite? Est-ce que vous arrivez à prendre le temps?
On est beaucoup moins bien en ville, c'est clair. On vit mal, on mange mal, on respire mal. Et on est plus heureux à la campagne, mais on est plus seul parfois à la campagne. C'est pas facile non plus, hein, de vivre à la campagne tout le temps.
Est-ce que vous parvenez à appliquer vos idéaux dans votre quotidien, manger bio par exemple, en vivant en ville?
J'essaie, oui, mais ça c'est facile. Vous savez, quand vous êtes invité au restaurant, travailler 24 heures sur 24 dans une mise en scène, n'est pas forcément tout le temps de faire de la cuisine bio et d'une, ni de trouver un restaurant bio. Des fois, vous arrivez à... On cherche, hein. Il y en a de plus en plus à Paris, mais bon, ça, je ne suis pas une intégriste. Hein, là,
enfin, on a tous cette difficulté à être cohérent sur toute la ligne.
Si, on est cohérent, mais la société, elle est comme elle est, et on est obligé de vivre dans cette société, hein. Moi, je ne peux pas arriver 3 heures en retard à mon boulot parce que j'ai fait une soupe bio. Hein.
Tout à l'heure, vous parliez d'une forme de désert politique. Est-ce qu'on peut parler de solutions citoyennes face à un désordre politique?
Solutions citoyennes, c'est bien, mais moi, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là politique. Hein. Mais le côté faisons ma petite part pendant que la forêt brûle, je pense à une connerie noire, hein, franchement. Hein. Oui, la forêt brûle, et le petit colibri qui dit « Ah ben moi, je fais ma part, parce que j'ai mon petit godet d'eau, là. » C'est n'importe quoi, ça. C'est totalement n'importe quoi. Il y a un moment, il va falloir qu'on s'organise, qu'on soit aussi fort qu'eux, qu'on ait les mêmes moyens qu'eux, et qu'on leur claque leur clapet. Hein, c'est pas en faisant un petit godet de colibri pendant que la forêt brûle que ça va s'arranger. Il va falloir quand même qu'on prenne un pouvoir. Hein. Et pas seulement des petites initiatives citoyennes... Ils sont super. Hein.
En s'organisant en réseau, par exemple, et en allant voir ce qui se passe ailleurs?
Non, en s'organisant dans une force politique qui va prendre le pouvoir. Voilà. Peut-être pas pacifiquement. Parce que, vous savez, ils sont très violents. Hein. Et quand les gens sont pacifiques, les pacifistes, ça les fait bien rigoler. Hein. Il faut les connaître, ceux du pouvoir.
Grand merci, en tout cas, pour votre témoignage. Et j'espère à bientôt, merci. Ici ou ailleurs. Bonne continuation, okay. Colline Serrault.
Merci.
Merci à vous. Au revoir. Thank you.